En partenariat avec le festival Musique et Cinéma Marseille, Radio Grenouille a réalisé une série d'entretiens de duos de compositeurs et de réalisateurs. En direct du Café Bloom au cinéma L'Artplex.
Nous sommes en direct du Musique et Cinéma Marseille, le festival international de composition musicale à l'image. Nous sommes au Café Bloom, au rez-de-chaussée de l'Artplex. Et nous sommes avec Nicolas Peduzzi et Gaël Racoton-Drabé. Bonjour. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Gaël Racoton-Drabé, on va devoir faire des présentations tout de même, puisque pour certains, certaines, votre nom va tomber dans l'oreille de quelqu'un qui vous connaît, puis pour d'autres auditeuristes, peut-être pas. Donc, pour les présentations, Gaël, vous êtes compositeur, mais aussi pianiste de jazz. Vous avez collaboré avec bon nombre d'artistes, pour n'en citer que quelques-uns, Coco Rossi, Anoni, Ayo. J'ai fait ma propre liste, hein, c'est exhaustif, non exhaustif, pardon. Ouais. Vous avez aussi fait la composition originale de plusieurs documentaires, dont le remarqué Mister X, présenté à Sundance. Vous venez de sortir votre premier album, on en a écouté un des titres juste ouais. avant de reprendre l'antenne. Merci. C'est Shadow. Bon, c'est votre premier album en leader, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul sur cet album.
Ouais, je suis en trio, c'est mon premier album en tant que leader de groupe.
Vous travaillez pour la première fois avec Nicolas Peduzzi pour le documentaire « État limite ». Nicolas Peduzzi, à votre tour pour les présentations. Vous êtes réalisateur. Il s'agit de votre troisième long métrage après le documentaire Ghost Song et le documentaire Thurston Bell, j'essaye avec un accent très français, qui a eu le grand prix de la compétition française du film Marseille l'année dernière. L'année dernière, oui, il y a 2 ans. Non, 4 ans. Oula, le temps passe vite. Et là, vous êtes en lice pour la compétition 2024, cette fois, officielle du MCM, pour État limite.
C'est ça.
On est tout bon ?
On est tout bon.
On est tout bon.
Southern Bell, mais c'est très très dur à dire, moi-même j'ai du mal.
Et pourtant vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis, au Texas notamment.
C'est ça, mais il y a quand même l'accent français qui est...
Ça résiste ?
Qui résiste.
Alors, pour revenir à État limite, c'est un documentaire qui se déroule dans les murs de l'hôpital public Beaujon à Clichy. On y suit de très près, que ça soit au niveau des pensées ou même au niveau de la proximité de caméra avec les corps. On suit le psychiatre Jamal Abdelkader. C'est le seul psychiatre en fait de ce service et ça témoigne beaucoup, surtout d'une institution en crise et à bout de souffle. C'est un environnement qui est surchargé d'un point de vue sonore. Il y a les bruits des machines, il y a les corps, il y a la détresse des gens, il y a beaucoup de mouvements. C'est presque un défi d'y ajouter de la composition musicale par-dessus, ou en tout cas d'arriver à la tresser avec cet environnement sonore-là. Comment vous vous êtes saisi de ce défi, Gaël, quand on vous l'a proposé ?
On en parlait il y a à peine 5 minutes.
Ah oui.
C'était vraiment une collaboration à trois mains avec Nicolas Peduzzi à la réalisation, Nicolas Burlatti au montage. Et moi-même, on s'est posé moult questions sur chaque scène. Est-ce qu'il en faut ? Est-ce qu'il faut de la musique ? Qu'est-ce que la musique doit apporter ? Est-ce qu'elle doit être un narrateur ? Est-ce qu'elle doit, elle doit raconter autre chose ? Est-ce qu'elle doit accentuer ce qu'on voit à l'écran ? Et en fait, ça a été assez long à faire, mais on a adoré ce processus d'essayer d'être juste. D'essayer d'apporter un nouveau caractère, un nouveau personnage au film avec la musique.
Et là où il y a quelque chose de très délicat, c'est que l'intensité du sujet qui traite le film, le niveau de tension déjà ambiant en fait qu'on ressent dans les images, la musique, elle peut soit permettre de prendre de la distance, soit accompagner, soit alourdir. Mais arriver à être sur le bon fil. J'imagine que dans la position de compositeur, ça doit être questionnant quand on doit coller à ce sujet-là.
Ouais, c'est un sujet effectivement qui requiert de passer beaucoup de temps. On est sur le fil tout le temps de passer d'être trop lourd ou parfois on a vraiment l'impression d'en faire trop. C'est très rapide en fait de se dire là peut-être qu'on a déjà passé. on est déjà passé dans le trop heavy, trop, c'est trop musical en quelque sorte. C'est, on est toujours sur un fil, quoi. C'est pas évident.
Dans votre présentation, je disais que vous étiez donc pianiste. Là, c'est un album plus jazz que vous venez de sortir. Mm-hmm. Et pour autant, là, dans le documentaire À ta limite, on est aussi sur des tonalités très électroniques.
Ouais.
Donc,
ouais,
bon, c'est votre côté un peu pluriel dans votre composition,
oui,
qui ressort. Mais
ouais.
En ce qui vous concerne, vous, Nicolas, vous saviez dès le début que c'était plutôt sur de l'électronique que vous alliez pencher en termes de composition?
À vrai dire, au tout début, je me suis dit, il n'y aura pas du tout de musique.
Ça le mérite d'être honnête.
Ouais. Parce que l'hôpital, parce que tout ça. Et finalement, au fur et à mesure de la rencontre avec Jamal, donc le docteur, le psychiatre, je me rends compte qu'il est très musical dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, qu'il a un rythme. Et je pense immédiatement à la musique de Gaël, en fait, parce que Gaël, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un musicien aussi qui parle à travers sa musique. Et du fait que Jamal soit seul, j'avais besoin de quelque chose qui dialogue avec lui plutôt qu'une musique qui accompagne, disons. Et c'est ça vraiment qui... Et j'ai vu, je connaissais le travail de Gaël, je l'avais vu improviser. Là, comme vous disiez, c'est son premier album, mais il a fait beaucoup, beaucoup de live avant. Et donc, je l'ai vu une fois jouer sur un piano qui était pas accordé. et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, il réussissait à embrasser ce truc-là. Et avec l'hôpital, c'était un peu ça aussi. C'est vrai que c'était délicat parce qu'on m'a souvent dit, mais de la musique sur un hôpital, c'est touchy, etc. Et en fait, tous les persos, les personnes qu'on voit dans le film sont tout le temps avec de la musique aussi dans la solitude, etc. Donc, on sait vite aussi à de la musique classique et lui, il a cette capacité de pouvoir, avec la musique classique, faire du jazz, mais aussi de l'électro. Donc, ce pluralisme qu'il a, c'était parfait pour un sujet comme ça.
Pour moi. Même avant donc, de rencontrer Gaël, vous aviez senti cette patte presque organique au rapport à la musique?
Ouais, avant de rencontrer Gaël, je le connais depuis pas mal de temps.
on se donne une fourchette depuis quoi?
Ça fait combien de temps? Enfin, presque une dizaine d'années.
Une dizaine d'années. Ouais,
ouais. Oui, ça commence à faire.
Ouais, ça commence à faire. Donc, j'avais pas du tout commencé le film. Et en fait, non, c'est venu vite l'envie de travailler avec Gaël, même avant le film, en fait. Et du coup, je me suis dit, d'avoir de la musique que des nappes électro ou autre chose, ça pouvait pas trop marcher avec ce film-là. Il fallait aussi être un peu dans l'intérieur des gens, dans quelque chose de la psyché, et de la psyché de Jamal surtout. Et voilà, donc c'est ce qui s'est fait, on en a beaucoup discuté.
J'ai rencontré aussi Jamal
pendant le tournage.
Ouais, c'est ça, aussi, ouais. Il y a eu ça.
C'était important, je pense. Ouais. Ça a importé à Nico que je le rencontre, et ça a été effectivement un moment clé pour la composition.
En tout cas, pour faire lien avec cet aspect introspectif et profondément psychologique de ce documentaire, c'est une transition toute faite par rapport à l'extrait sonore qu'on a sélectionné, puisque c'est toujours intéressant de parler de musique et de composition, mais c'est des fois encore mieux de la donner à entendre. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est un extrait sonore qui arrive à peu près au tiers du film. Je ne vais même pas en dire plus, puisque je crois que l'extrait est assez parlant dans la thématique et dans l'intensité émotionnel et sémantique de ce film.
Non, mais je vais essayer de passer mon bac.
Ouais, par exemple. Faites ça. Mais sans vous mettre une pression folle, hein. Le problème, c'est que moi, je lutte contre une logique où on ne peut pas quantifier ce que je fais. Et comme on est dans une logique à vouloir quantifier tout, ça dévalorise ce que je fais. Parce que la relation, en fait, moi, je fais de la relation. Concrètement, c'est de la relation. C'est de bâtir des relations de confiance, des relations de soin. Mais ça n'a pas de prix, en fait. Si je t'opère de la cataracte, ça dure 15 minutes la cataracte. Mais moi, ce que je fais, c'est pas prévisible. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de construire un lien et d'apaiser une personne, de rencontrer sa famille et de l'apaiser, de lire son dossier. Des fois, ça me prend une heure. Donc en fait, le problème, c'est que quand c'est les choses, comme les choses sont réfléchies comme ça, on se dit, bah en fait, pourquoi on va payer deux psychiatres ou trois psychiatres pour voir deux personnes? En principe, il n'a pas besoin de prendre autant de temps, tu vois. Ouais, donc il y a cette jeune fille là qui est arrivée là il y a quelques jours là à l'hôpital. Là. Elle a fait une tentative de suicide assez grave. C'était pas la première en fait. Elle a fait un nombre de gestes suicidaires incalculables là, depuis qu'elle est devenue pubère. Elle a été dans tous les services de psychiatrie qu'on puisse imaginer en Ile-de-France. Elle a un peu épuisé tout le monde et en fait pour essayer d'apaiser un petit peu sa souffrance là depuis maintenant plusieurs années, elle s'est essayée à prendre un milliard de trucs. Là, quand on a fait le répertoire de tout ce qu'elle a pris, enfin c'est donc des trucs que je connaissais pas, une nouvelle drogue de synthèse, elle me disait que finalement c'est la substance qui l'apaisait le plus, c'était la kétamine. Et donc là, je me dis c'est peut-être un heureux hasard qui fait que cette molécule vient de sortir là. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on l'essaye sur elle.
C'était donc un extrait du documentaire État limite. Donc j'ai envie de dire le ton est donné, que ça soit au niveau de la composition musicale, que autant au niveau du propos. Donc là, étant donné qu'on est en radio et qu'on n'a pas l'image, pour faire une description rapide, c'est la première séquence où on a des plans fixes sur des photographies. Ces photographies, d'après mes renseignements, elles ont été prises par Pénélope Chevelot. J'espère que je prononce bien son nom de famille.
C'est ça, ouais.
C'est une ancienne reporter de guerre et par ailleurs, c'est aussi votre mère, Nicolas Peduzzi.
C'est vrai, tout à fait. C'est ma mère.
En tout cas, quand j'ai trouvé cette information, j'ai trouvé ça intéressant, pas seulement que ça soit votre mère, mais aussi qu'elle ait été précédemment reporter de guerre. Puisqu'il y a presque un état de siège dans cet hôpital, dans la panique, dans le fait d'être seule et d'être perdue dans la détresse des gens. Et donc j'ai l'impression que vous avez pu aussi faire cette collaboration-là avec donc Pénélope Chevelot pour faire ces photographies, j'imagine, argentiques.
Ouais.
Puisqu'il faut avoir aussi une proximité avec cette détresse que les gens vivent en hôpital psychiatrique, ou en tout cas la détresse des gens, pour arriver à les photographier de manière juste.
C'est vrai que assez vite... Alors déjà, petite anecdote, en fait, je connais l'hôpital, parce que j'ai passé du temps, surtout ma mère a passé beaucoup de temps dans les années 90 avec mon père qui a été soigné là-bas, en service de... Donc c'est un hôpital généraliste, et lui, il était en service hépatologie, il avait reçu une transplantation du foie. Et on y retournait avec elle, effectivement, en plus, c'était début du premier confinement. Donc il y avait aussi cette idée un peu dont ils ont joué pas mal, de guerre, etc. Mais c'était pas la raison. Moi, la raison, c'était que vraiment, j'avais envie d'une personne aussi, que le film soit un tout petit peu collectif et qu'il y ait une personne qui connaît l'endroit et qui fasse aussi, qui ait son point de vue à elle, des choses qu'elle connaissait, de l'architecture du lieu. Et donc, je lui avais proposé de venir. Et voilà. Et c'était aussi une façon de dézoomer sur l'hôpital, d'avoir quelque chose d'un peu figé sur la situation en général, mais sur cet hôpital qu'elle a connu aussi avant, à un moment où vraiment à l'intérieur de l'hôpital les chefs de service connaissaient toutes les infirmières ou infirmiers par leur prénom. Il y avait vraiment un truc très familial, et j'y suis retourné 20 ans après avec cette idée là et finalement où effectivement j'ai été très bien accueilli dans plein d'endroits, mais c'est en rencontrant Jamal, le psychiatre, donc le seul psychiatre de l'hôpital, que j'ai vu un peu aussi comment la psychiatrie en fait était reçue à l'intérieur d'un hôpital général, quoi.
Et c'est vrai que ces photos en noir et blanc, elles arrivent comme ça dans le film. C'est un choix profondément audacieux, parce qu'on s'y attend pas du tout. Et ça apporte encore plus de finesse au propos, puisque tout à l'heure, on évoquait l'aspect introspectif, psychologique de ce film. Là, donc, on entend la voix du docteur Abdelkader qui se cale donc, en fait, sur ces photos. Et en même temps, avec tout le design sonore des sons ambiants de l'hôpital, plus votre composition, Gaëlle. Et vous, ces séquences-là, est-ce qu'elles étaient différentes en termes de travail ?
Elles ont pour cette séquence, je crois que c'était ça. Et j'avais en fait, ce qui est, en réécoutant, je me rends compte à quel point ce que dit Jamal fait partie de la musique. Et je me souviens d'une des premières fois où on a travaillé ensemble, c'était autour de mon piano avec le film, et j'improvisais carrément avec le dialogue de Jamal. Et les idées me venaient dans les... Donc je remplissais dans les trous et j'entendais évidemment... Je faisais avec les sirènes d'ambulance et les bruits de... Et ça a été vite un choix d'utiliser ces bruits qu'il y a dans les hôpitaux dans la musique, même après, plus tard, pour faire même des samples un peu techno et dans des musiques qui viennent un peu plus tard dans le film.
D'ailleurs, quand on vous a annoncé qu'on avait choisi un extrait sonore, on s'y est pris un peu tardivement, et donc on a eu l'information trop tard par rapport à quand on a extrait l'extrait sonore. Vous aviez la préférence de parler d'une séquence où c'est une pièce de théâtre qui se déroule donc au sein de l'hôpital avec des patients, puisque le psychiatre Abdelkader, il a plein de casquettes. Effectivement, c'est un personnage... presque, bien sûr qu'il est réel, mais il y a quelque chose où, évidemment, quand on rencontre cette personne, on a envie de faire un film sur lui, puisque à lui seul, déjà, il a presque 8 métiers, aide-soignant, psychiatre, médecin, presque conseiller familial.
On dirait un acteur.
Oui, on dirait un acteur. Et donc, parmi ces casquettes-là, il y a aussi l'accompagnement ou l'animation, on ne sait pas trop, d'une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, c'est quelque chose de presque un peu décalé dans le film, puisque on est avec ce qui
dramatique.
Est... Oui, il y a quelque chose d'un peu comédie dramatique, puisqu'on est avec ce qu'on appelle vulgairement des fous, qui jouent Roméo et Juliette, et qui ont souvent eux-mêmes fait des tentatives de suicide. Et donc toute la délicatesse quand même de venir induire de la musique sur une scène comme ça, c'est tendu, c'est audacieux.
Ouais.
Comment vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Parce que vous vouliez parler de cet extrait-là, hein, donc je reviens dessus. Hein.
Bah, en fait, c'est une des scènes que je préfère dans le film, moi, personnellement. C'est, alors là, je crois qu'il y avait utilisation de temp music. Nicolas me parlait beaucoup de Isao Tomita, qui est un compositeur de musique électronique, mais qui reprenait des choses de classiques, du Debussy, un peu comme Wendy Carlos l'a fait avec Stanley Kubrick. Et au début, je comprenais pas très bien son choix, mais après j'ai vu la scène et je trouvais que ça amenait beaucoup de féerie et qu'on sortait un peu de l'hôpital dans cette scène, en fait.
Oui, parce qu'il y a de la joie aussi dans cette scène.
Il y a de la joie et et j'avais envie d'amener un peu plus loin dans la féerie, et donc j'ai utilisé beaucoup de synthé et on est parti dans quelque chose d'un peu différent du reste du film. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette séquence.
Oui, c'est vrai que c'est une scène particulière et c'est un endroit que Jamal réquisitionnait presque illégalement. Il n'avait pas vraiment le droit, donc c'était entre une réunion de crise de Covid à l'époque, et il avait pris un peu en loose day cette pièce pour en faire un atelier de théâtre. Et à moi, quelque chose de magique qui s'est passé personnellement, c'est que j'ai vu des patients avant se transformer complètement pendant le théâtre. Et le théâtre, c'est bien, mais c'est aussi une excuse en fait pour créer ce lien-là. Et en fait, voilà, on avait envie de sortir d'un truc naturaliste et vraiment de partir dans une envolée. Et Gaël a parfaitement saisi un peu l'essence, je crois, de ce qui se passait, et aussi la façon de sublimer un peu tout ce qu'ils avaient tous vécu, parce qu'il y a des gens qui ont fait des tentatives de suicide graves, et de jouer Roméo et Juliette. Il y a quand même quelque chose de profond là qui est qui est touché, quoi.
Qui est presque résilient.
Ouais, presque un peu résilient. Et un humour aussi. Mmh. C'est une façon d'en rire, de relâcher quelque chose. Et ouais, ça s'est fait assez... On avait déjà d'abord mis le Isao Tomita et ensuite t'as repris le truc, t'en as fait quelque chose de à toi personnel. Quoi.
Un autre aspect qui est très cinématographique dans État limite, c'est bon. Évidemment, le choix de la scène d'introduction est parlant parce qu'on suit de dos l'aide-soignant Romain, qui est quand même un protagoniste important dans le documentaire, et il a tatoué dans la nuque le signe ON comme sur les machines. Et on dirait que c'est presque fait pour le film. Non, mais c'est fou, ce truc-là. On suit quand même des personnes où leur métier est en train de s'écrouler au niveau des conditions de travail et qui sont tous et toutes convaincus de pourquoi ils ont choisi ce métier-là. Il y a notamment une scène qui est profondément interrogante et belle aussi, d'un échange entre Jamal, donc le docteur, et Romain, l'aide-soignant, où il s'interroge sur la porosité de ce qu'il traverse avec les patients du fait de la dégradation de leurs conditions de boulot et aussi de voir toutes ces angoisses au quotidien et de ne pas pouvoir s'occuper correctement des gens, combien ça fait un effet de transfert, un effet de miroir. Et je pense que, peut-être pas n'importe qui, mais en tout cas beaucoup de spectateurs et spectatrices en voyant ce documentaire se poseront aussi la question. Est-ce que vous, en documentant quotidiennement cet hôpital, ces enjeux, ces problématiques, en étant plus près de Jamal, ça vous a fait cet effet miroir aussi?
Moi, ça m'a fait cet effet miroir. Ça me l'a fait, et ça a été vraiment... Il y a eu plusieurs périodes, parce qu'on l'a quand même filmé sur 2 ans et demi.
C'est beaucoup. Donc,
ouais, et pas tout le temps. C'était vraiment... avec tout était un peu éparpillé dans le temps. Et ensuite, il y a eu des confinements ou des couvre-feux. On ne pouvait pas y aller tout le temps. C'est pas un hôpital psychiatrique, c'est un hôpital général, donc il y a des situations qu'on ne pouvait pas filmer. J'imagine aussi dans un hôpital psychiatrique en vrai, mais voilà, là c'était encore, des fois encore plus grave, parce que c'est comme vous avez vu dans le film, il y a des gens qui sont amenés aux urgences, qui sont en réanimation. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu filmer, c'est vraiment un fragment de sa vie. Mais c'est vrai que moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui m'a toujours questionné toute ma vie. Je me suis posé plein de questions là-dessus. Et en voyant des situations comme celle que Jamal... auquel Jamal est confronté tous les jours, en fait, on peut vraiment s'identifier, même si c'est très grave, mais en fait, c'est quelque chose de très humain et des gens qui sont dans des douleurs bien plus... enfin, qui ont des maladies ou qui ont des souffrances bien plus fortes que les miennes, mais quand même, il y a quelque chose où on sent que c'est universel. Et ça nous a beaucoup touchés, enfin, toute l'équipe qui était là aussi de temps en temps, ma mère, pareil, on arrivait quand même à se... Il y avait un effet de miroir avec tout ce qui se passait à l'intérieur, peut-être pas que les patients, aussi les soignants. Quoi.
Est-ce que vous êtes fait aussi attraper comme ça avec ce documentaire?
Oui, en fait.
Embarqué.
Je voulais juste rajouter que en fait, le film, c'est pendant et après Covid. Donc
oui.
Nous, on se sent tous finalement concernés par la santé mentale après avoir vécu le confinement, je pense. Et d'attaquer ce film juste après les confinements, ça m'a évidemment poussé dans mes retranchements et fait profondément sentir que la solitude pouvait aussi amener des cas assez graves que l'on voit dans le film. Et pour en revenir à la séance du théâtre, c'est le seul moment où tout d'un coup on sent...
Ça,
une espèce de liesse et en faisant la musique tout seul chez moi, ça, forcément je pense à tout ça et ça a beaucoup bousculé pas mal de choses.
Oui, parce que quand vous avez donné tout à l'heure l'image de avoir l'ordinateur près de votre piano avec la voix de Jamal, je me suis dit mais là on est quand même sur ce transfert de la voix qui rentre en fait dans le cerveau et qui reste aussi, où ça résonne.
Ouais, j'avais l'impression d'entendre plusieurs voix. J'ai même composé une petite fuguette à plusieurs voix pour le film. Ouais, effectivement, c'est là j'en ris, mais c'est vrai que ça m'a profondément bouleversé de voir non seulement l'état des hôpitaux pour parler que de ça, mais aussi la façon dont Jamal a amène toute son énergie à,
et toute son humanité. Hein,
et toute son humanité. On en avait tellement besoin après tout ce qu'on a pu vivre, même si c'était pour certains beaucoup plus facile que d'autres. C'est touchant, quoi. Et je pense que c'est un film à voir absolument, quoi, pour cela.
C'est un film nécessaire.
Ouais, tout à fait.
Et est-ce qu'on sait où on est, Jamal?
Ouais, on est resté assez proche avec Gaël et Jamal, et on se voit souvent. Et du coup, après notre venue à Beaujon, après le film, il a continué un peu à Beaujon. Ensuite, il est parti dans un autre endroit. Il s'est rendu compte que c'était pas vraiment pareil, que c'était pas dans ces hôpitaux comme ça de la PHP qu'il allait pouvoir, en tout cas, faire son métier comme lui, en tout cas, l'entendait. Et je crois qu'il a fait plusieurs missions à Fresnes, en prison. Pareil, le milieu carcéral, il me disait que c'était très compliqué. Avant, la bureaucratie, c'était encore pire. Et du coup, je pense qu'à un moment, il s'est dit, je vais essayer de me poser un peu, voir comment faire les choses, trouver des lieux où je pourrais soigner, enfin, en tout cas, accueillir les gens de la façon dont je l'entends, moi, et pas être restreint par des choses, des absurdités bureaucratiques, quoi. Et voilà, il est très jeune, donc on a commencé à filmer, il avait 33 ans. Du coup, je pense qu'à un moment, il a besoin de se poser, réfléchir à comment continuer à faire son métier comme ça dans le public.
En tout cas, c'est oui, effectivement, comme on dit, c'est une œuvre qui est nécessaire et qui touche deux endroits sensibles, c'est-à-dire il y a évidemment un sentiment d'émotion très forte et qui est presque mélancolique ou tragique par rapport à l'état actuel du système de santé en France et des personnes qui continuent à le faire tenir, et en même temps l'espoir et l'humanité qui traverse ce film, incarné par Jamal, mais aussi par les patients, par l'entourage, parce que c'est un film qui est profondément humain et qui arrive à garder beaucoup de délicatesse tout en étant au plus proche, et ça, c'est pas facile.
Merci.
Gaël Racoton-Drabé et Nicolas Peduzzi, une dernière question. Est-ce que aussi votre duo a permis cette délicatesse-là, puisque vous faites partie de l'équipe du film et que visiblement c'est une collaboration réussie, est-ce que vous êtes amenés à potentiellement retravailler ensemble sur d'autres projets, ou c'est encore confidentiel?
Bah, pour l'instant, il faudrait que les projets se fassent. peut-être dans 10 ans, si on arrive à monter les projets. Non, mais oui, moi, j'aimerais. Ce serait un honneur de retravailler avec Gaël.
Avec un grand plaisir.
Surtout que j'ai rarement vu un musicien qui était capable d'avoir une palette comme ça aussi étendue, de passer du classique à du jazz, à ce que je disais tout à l'heure, l'électro. Je lui ai fait écouter le premier morceau de Gabber, qui est au début du film, de Evil Grimace. Et il a repris des thèmes après, en mélangeant ça avec. Et donc vraiment, c'est un bonheur, quoi, de bosser avec lui. Il comprend vite.
Je te retourne le compliment.
Vous êtes en compétition officielle du MCM dans la catégorie long métrage. La remise de prix est à l'heure où nous enregistrons ce plateau en direct du festival demain, le samedi 6 avril 2024.
Surtout qu'il y aura la sortie en salle le 1er mai. Ah. Donc ça, c'est vraiment aussi important.
C'est quand même bien aussi de venir financer aussi le film, parce que on sait que dans le documentaire, les économies sont quand même fragiles, et ça mérite vraiment soutien. Merci Nicolas Peduzzi et Gaël Racoton-Drabé d'être venus.
Merci à vous de nous accueillir.
Merci beaucoup, Radio Grenouille.
Radio Grenouille 88.8.